radio CFVE par reportage. Ouvrez grand vos oreilles.
Connaissez-vous la gare de Paris-Saint-Lazare ? C'est la deuxième gare d'Europe en termes de trafic. 1600 trains y partent et arrivent par jour, ce qui représente, en heure de pointe, un mouvement toutes les 30 secondes. Vous vous rendez compte ? Et tout cela est géré à partir du poste de commandement, véritable tour de contrôle de la gare de Paris-Saint-Lazare. Dans ce reportage, je vous propose justement de découvrir ce poste de commandement. Attention, ce reportage date d'il y a une vingtaine d'années, donc les choses ont évolué depuis, à savoir notamment que désormais tout est informatisé, il n'y a donc plus de remontée des trains qui passent dans les gares au téléphone, comme vous allez l'entendre dans ce reportage.
Bonjour, je suis François Michaud, je suis le chef du poste de commandement de la région de Paris-Saint-Lazare. Bon, je peux peut-être juste repréciser donc, les missions du poste de commandement et puis notre domaine de responsabilité. La région de Paris-Saint-Lazare, donc ce qu'on appelle nous la région, c'est l'ensemble des lignes qui sont au départ de la gare de Paris-Saint-Lazare. On va jusqu'à Mantes et puis même après, donc en direction de Rouen ou en direction de Cherbourg. La ligne qui part sur Gisors également, donc ça, tout ça ce sont des lignes qui sont au départ et à l'arrivée donc, de Paris-Saint-Lazare. Et sur l'ensemble de ces voies, il y a des trains qui circulent. Et la mission du poste de commandement, c'est d'avoir en permanence un regard sur ce trafic, de savoir en permanence où se trouvent les trains, et puis donc de gérer au mieux les circulations sur l'ensemble de ce réseau ferré, donc de la région de Paris-Saint-Lazare.
Quand vous gérez, ça se passe comment, au juste ?
Alors le principe de base, je dirais, on applique, nous, le plan de transport. Alors qu'est-ce qu'un plan de transport ? Très schématiquement, pour faire circuler les trains, eh bien, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de conditions préalables. Qui sont évidentes, mais bon, je vais les repréciser, à savoir que pour qu'un train circule, il faut déjà qu'il y ait une rame, ça paraît normal, il faut qu'il y ait une locomotive en tête du train, c'est une deuxième chose, il faut qu'il y ait quelqu'un pour conduire le train, et en dernier ressort, je dirais également, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des sillons de disponibles. Si je devais prendre une comparaison avec la route, s'il y a des axes sur lesquels il y a des bouchons et autres, nous, il faut qu'on puisse trouver l'axe le plus propice pour faire rouler les circulations, où il y a encore des disponibilités donc, pour faire rouler ces trains. Donc nous, notre rôle ici, donc, c'est d'assurer le plan de transport. Et donc c'est de s'assurer en permanence que ces quatre facteurs dont j'ai parlé donc, étaient toujours assurés. Ce qui veut dire qu'on a deux types de missions en particulier, on a deux types de travaux. On a un poste, ce qu'on appelle la régulation, donc lui qui va suivre les sillons. C'est lui qui va avoir la vision, donc globalement, le flux des trains, comment ça se situe. Et il va y avoir un deuxième poste de travail, enfin, donc ils sont plusieurs. Donc c'est ce qu'on appelle la permanence, et là ils vont gérer les moyens. Donc ils vont gérer les rames, ils vont gérer les locomotives, ils vont gérer les mécaniciens, et c'est eux qui également, en opérationnel, en permanence, vont s'assurer que les rames sont au bon endroit, que les machines sont au bon endroit, et puis que les mécaniciens pour conduire ces trains sont également au bon endroit.
Des fois il suffit d'un grain de sable pour que tout s'enchaîne. Alors comment un régulateur gère les situations perturbées ?
Il est difficile de donner une réponse standard à cette question. Il peut y avoir, par exemple, donc, ce qu'on appelle on a une terminologie très précise, on parle par exemple des accidents de personnes, ça reprend les suicides et autres. Bon, enfin, on parle d'accidents de personnes parce qu'on, quand il y a un accident, on a une présomption de suicide par exemple, on n'en a pas la certitude, donc c'est pour ça qu'on reprend toujours dans les termes génériques. Donc il peut y avoir un accident de personnes, il peut y avoir des problèmes caténaires, donc c'est tout ce qui peut être lié à l'alimentation électrique des trains. Je parle de ça pour dire qu'il y a une graduation donc, dans la situation perturbée. Un signal d'alarme au niveau d'un quai de voyageurs, ça peut nécessiter l'intervention donc, du mécanicien, donc c'est le conducteur de train, pour aller, ce qu'on appelle réarmer le signal d'alarme. Donc ça, il peut y avoir une conséquence, on va dire, de 5 minutes ou 10 minutes, et puis après, le service peut reprendre normalement. S'il y a un accident de personne, on sait d'entrée qu'on risque d'avoir au moins une heure de perturbation du fait des conséquences de la gestion, parce qu'il faut que les forces publiques interviennent, il faut que les pompiers, il faut même parfois les pompes funèbres, voir un médecin légiste pour analyser le pourquoi de l'accident. Donc le régulateur, lui, il va, en fonction donc, de la gravité, il va tout de suite avoir une idée des conséquences que ça peut avoir. Et il doit aussi juger en fonction de l'endroit où ça se passe, parce que c'est sûr qu'à certaines gares, où il y aura par exemple quatre voies, il y aura la possibilité de faire circuler les trains sur les voies contiguës, il en fera circuler moins, mais il en fera circuler. Si ça se situe sur, par exemple, la ligne lignes Paris-Mantes, je prends un exemple complètement aléatoire, mais Paris-Mantes par Conflans, ça se produit par exemple du côté de Limay, ben, dans ce cas-là on n'aura que deux voies, on n'aura pas de possibilité, si les deux voies sont coupées, ben, il faudra penser même à d'autres solutions de substitution, donc voire même par car à certaines heures. Sachant que la difficulté, c'est qu'en heure de pointe, on a énormément de voyageurs à transborder et c'est vrai que c'est pas aisé d'avoir des solutions de substitution en car, par exemple.
33-45 à 36.
36.
789 à 49.
49.
Donc là, on se trouve derrière une table de régulation. Donc il y a un régulateur qui est en train de suivre le trafic donc sur la partie dont il a la responsabilité. En l'occurrence, là, c'est sur la ligne Paris-Mantes-Parc-Conflans, également Paris-Gisors. Globalement, c'est sur ces lignes-là. Et donc, lui, il a comme mission de suivre l'ensemble des trains donc, qui circulent sur sa zone. Et pour cela, il dispose de différents outils. Il y a des balises dans les voies qui lui permettent, entre autres, par des systèmes d'écran informatique, d'avoir des remontées des passages des trains à certains un lieu très, très précisément et avec les horaires. Maintenant, tout n'est pas équipé de ce genre de balises, et ce qui fait que certaines gares communiquent régulièrement les heures de passage des trains chez elles. Donc là, ce qui vient de se passer, c'était donc l'agent de circulation du poste 3 d'Anières qui communiquait au régulateur les heures de passage des derniers trains étant passés dans sa gare. Donc cette relation se fait par un circuit de téléphonie donc en direct entre le régulateur et la gare.
Où sont gérées les arrivées et départ des trains sur les 27 voies de la gare Saint-Lazare?
Pour nous, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'un train puisse effectivement partir de Paris-Saint-Lazare, qu'il puisse y arriver. Maintenant, la répartition des voies, ça n'est pas de notre ressort. Pour nous, donc, ce qui est important, c'est que le train il arrive ou il en parte. Maintenant, que ce soit la voie 26, la voie 27, ça, c'est le poste d'aiguillage qui gère la gare de Paris-Saint-Lazare, qui fait, bon, il y a une distribution théorique, et c'est lui qui peut adapter éventuellement... et qui fait l'affichage sur les quais, donc c'est lui qui gère tout ça pour préciser aux clients, aux voyageurs, où se trouve son train. Peu nous importe que ce soit sur la voie donc 26 ou 27, sachant qu'il y a 27 voies au Paris-Saint-Lazare.
Numéro.
Oui, là.
Donc 789, il va faire
voie 3 voies. Oui, là, 311, il a été de bonne minute,
quoi. Oui, facile.
Bon, tant pis pour 789. 822, ben écoute, tu me dis dès que ça peut repartir. Si c'est des phénomènes répétés, on prendra des mesures, quoi, avant d'ouvrir Vernouillet. On avisera, quoi, on baissera tout derrière. Quoi.
Je te dirai ça.
Éventuellement, que je puisse retenir le 824 à Aubert pour le mettre derrière 30 à 46, quoi. Par exemple.
Oh oui, bon, on
n'est pas
encore là.
Hein. Ah ouais, mais tu sais, moi je me fie, entre les Mureaux et Vernouillet, c'est en général, c'est le phénomène s'amplifie facilement.
C'est pas bête,
hein. Bah non, mais c'est bien qu'il y a eu des matinées, on est obligé de supprimer tôt. Hein. C'était là. Hein.
Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un train de banlieue entre Paris et Mantes. Donc là, l'incident se produit aux Mureaux où on a des signaux d'alarme donc, qui sont tirés. Malheureusement, des fois, c'est une sorte de sport, à savoir celui qui tirera le plus de signaux d'alarme dans la même rame, et c'est vrai que ça peut poser de très grosses conséquences en termes de circulation. Mais je dirais malheureusement, il y a des trains comme ça pour lesquels on constate qu'il y a des actes de malveillance qui sont faits de façon répétitive. Faut le gérer, mais ça explique aussi donc les réactions qu'on a entendues.
Et après avoir entendu ce reportage, on peut comprendre que le moindre grain de sable peut avoir des conséquences fâcheuses sur le trafic.
Radio CFVE, la radio des 30 ans du chemin de fer de la vallée de l'Eure.